puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scap 107.
Un modèle économique qui détruit l'humain. Ici, on l'a bien connu dans le bassin minier avec la silicose, les hommes mouraient à 50, 55 ans, même avant. Hein. J'ai un grand-oncle qui est mort à 34 ans de la silicose.
En 2012, le bassin minier de la région a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis, rien n'est figé et les acteurs du territoire veulent continuer à réaliser des projets dans le sens de l'inscription. Des rencontres du bassin minier patrimoine mondial de l'UNESCO ont donc eu lieu sur l'ancien site minier du 99 bis à Wani afin de réfléchir, de partager et d'échanger autour de la gestion et de l'animation. Pour nous en parler, voici Jean-François Caron, maire de Losanguel et porteur du dossier d'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il commence par expliquer le rôle de la mission bassin minier Nord-Pas-de-Calais.
Quand on a porté le projet d'inscription du bassin minier au patrimoine mondial, j'avais créé une association qui s'appelait Bassin Minier UNESCO, qui pendant 10 ans a porté les études, le travail de communication, de mobilisation dans les différentes communes, faire des clubs d'anciens mineurs, des clubs dans les collèges, dans les lycées, qui a travaillé avec les services d'État pour élaborer ce projet, puisque pour être au patrimoine mondial, il faut que on soit porté par le pays. Donc c'est le dossier de la France. Il a beau venir du bassin minier, c'est le dossier de la France. Et l'ambassadeur de France, par exemple, on l'a reçu à plusieurs reprises pour le former à notre dossier. Donc il y a eu un gros travail technique. Et quand on a été inscrit, on doit afficher un plan de gestion. En gros, pour être inscrit au patrimoine mondial, il y a deux questions. Un, est-ce que ce que vous proposez est de caractère exceptionnel à l'échelle de la planète et est-ce que ça parle à l'ensemble de l'histoire du monde? L'histoire des mines, oui, ça parle. Il y en a dans tous les pays du monde. Et est-ce que c'est exceptionnel ce qu'on a à proposer? Oui, parce qu'on a 3 siècles dont on a gardé toutes les traces. Donc ça, c'est en gros, est-ce que vous avez de la valeur? Mais après, le deuxième sujet, c'est est-ce que vous êtes capable de garder cette valeur dans le temps? Est-ce que dans 50 ans, est-ce qu'on a inscrit, on pourrait dire, les pyramides d'Égypte, est-ce qu'elles sont encore là dans 50 ans? Puisqu'elles font partie du patrimoine mondial. Les pyramides d'Égypte, c'est assez simple. Par contre, les cités minières, c'est un boulot. Et donc, du coup, la mission bassin minier a été mise en place, notamment pour accompagner ce que le fait d'être patrimoine mondial nous impose en contrainte. Par exemple, on ne va pas peindre des maisons dans des corons en jaune fluo avec du vert fluo sur les volets et du rose sur la porte, parce qu'on serait complètement en dehors de ce qu'ont été les cités minières. Et là-dessus, ça veut dire qu'il faut faire un travail un peu technique, comment on peut rénover les maisons, comment on peut changer les toitures, tout en respectant l'histoire. Et c'est une des plus grandes missions de la mission bassin minier que d'être garant dans le temps de cette inscription.
Alors il y a eu les rencontres du bassin minier patrimoine mondial, c'était fin novembre, le 26 novembre. Quel était l'objectif de ces rencontres?
Comme je viens de l'expliquer, être inscrit au patrimoine de l'humanité, c'est une gigantesque reconnaissance, c'est un énorme honneur pour nous, mais on va devoir faire la preuve qu'on ne s'accache pas. Et il y a déjà des territoires qui ont perdu leur inscription, par exemple, je me rappelle un territoire en Allemagne, à Dresde, qui ont créé un pont très moderne en plein milieu de la vieille ville qui avait été classée, et Dresde a perdu son inscription au patrimoine mondial. Bon. Donc on a cet enjeu, d'un côté que le territoire ne soit pas dégradé, qu'il ne soit pas envahi de constructions anarchiques, de publicités affreuses, mais aussi que l'entrée patrimoine a permis de faire du développement. C'est-à-dire, en gros, on n'est pas dans une logique monument historique où plus rien bouge. Il faut qu'au contraire, on puisse montrer que ça nous aide à créer de l'emploi, de l'activité. Et dans ce qu'on fait tous les deux ans, on appelle ça les rencontres du patrimoine mondial, on fait le point sur les problèmes qu'on rencontre. Par exemple, il subsiste quelques chevalements de mines aujourd'hui qui pourraient s'écrouler, faute d'avoir des propriétaires qui ont les moyens de les entretenir. Bon, si on ne fait pas attention, ils peuvent être détruits. Et s'ils sont détruits, on pourrait perdre l'inscription, parce que c'est un élément du bien qui disparaît. Les sujets chauds, quoi, quelques cités minières en transformation qui sont difficiles. Mais il y a aussi une dimension, c'est quoi les choses qui ont pu se développer grâce à l'inscription de l'UNESCO. Par exemple, les restaurants, l'hôtellerie, les visites de terrain, la fierté de pouvoir mettre sur un camion, parce qu'on a maintenant une marque patrimoine mondial, on a vu un camionneur qui fait le tour de France, enfin qui va partout en France, et sur ses camions, il a mis bassin minier patrimoine mondial parce qu'il est fier de ses origines. Et donc typiquement, ça c'est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire qu'on a des gens qui retrouvent l'envie de parler positivement du bassin minier et de dire « moi je suis fier de venir de là ».
Et quand vous dites « on », qui sont donc les acteurs, qui sont les personnes aussi conviées à ces rencontres ?
Donc ce sont quand même plutôt des rencontres techniques. Hein. On a deux types d'événements, soit des événements techniques comme ça où on a les élus, les maires, ceux qui travaillent dans les villes, les gens de la maison cité Soginorpa qui rénovent les maisons des mines, les acteurs du tourisme. Bon, donc c'est quand même plutôt des publics experts. Par contre, tous les ans, au mois de juillet, au mois de fin juin, début juillet, on organise une quinzaine, plus ou moins resserrée sur quelques jours, d'événements grand public. Par exemple, on avait fait l'embrasement des terris il y a 2 ans, et ça avait mobilisé plein de monde qui était allé un samedi soir pour observer le côté feu d'artifice sur les terris. L'an dernier, on a organisé un bal au Louvre, un peu à la mode folklorique, de comment les Polonais, quand ils étaient arrivés, comment ça a changé la culture locale. Donc là, en l'occurrence, ce dont on parle, c'était vraiment le temps technique.
Et il y avait comme invité le président de Puy-de-Dôme, Jean-Yves Goutbel. C'est l'occasion de comparer, en tout cas, d'avoir un autre point de vue d'un autre territoire.
Exactement. C'est très étonnant ce qui se passe avec lui, parce que moi, j'ai créé la chaîne des terris pour sauver les terris il y a longtemps. C'est là où on se rend compte qu'on prend de l'âge, en 1988. Et à l'époque, il y avait déjà une espèce de compagnonnage avec le Puy-de-Dôme, puisque ben, les terris ressemblent beaucoup à des volcans. Et quand on fait l'escalade des volcans, du coup j'y suis allé à plusieurs reprises depuis, même le matériau, il ressemble quoi, quand on grimpe dessus. Et puis ça fait un peu les mêmes types de monticules. Bon, les volcans sont un peu plus hauts que les terris quand même. Il y avait donc une proximité. Le président du département a voulu inscrire la chaîne des puits au patrimoine mondial, Puy-de-Dôme et tous les autres. Et ils ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Et à un moment donné, ils nous ont demandé un coup de main, parce que nous, on avait une bonne expérience de ça. Et les équipes de la Bisson Bassin Minier les ont aidés. Et ils ont fini par être inscrits. Donc, un peu comme si on avait été leur parrain, quoi, quelque part, pour les aider à monter leur dossier. Ce qui fait que, comme là, on organise ces rencontres tous les 2 ans. On aime bien toujours avoir un regard extérieur. On a fait venir 2 personnes. On a fait venir Jean-Yves Goutbel, qui du coup est venu nous parler de comment ça a transformé le département du Puy-de-Dôme. Et c'était intéressant parce que là, on avait les gens du tourisme chez nous, par exemple. Bon, bah, ils parlaient des résultats en termes de tourisme, parce que le type d'afflux de visiteurs que ça avait créé, ce que les gens demandaient. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Puis, on en avait un deuxième, c'est le conservateur du Mont-Saint-Michel, que j'étais allé aider il y a de ça quelques années, parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes dans la baie du Mont-Saint-Michel, et notamment avec les élus, parce que, ben par exemple, dans la baie du Mont-Saint-Michel, on ne va pas commencer à mettre des éoliennes, alors que c'est un site vierge, qui est une image d'Épinal à l'échelle du monde entier, quoi. Le Mont-Saint-Michel, je crois qu'avec la Tour Eiffel, c'est ce qui est le plus connu de France. Bon. Et donc, du coup, Xavier Bailly, là, qui travaille au Mont-Saint-Michel, était venu témoigner également. Et en fait, c'est une façon de se décentrer et de dire, bon, dans d'autres territoires de France, on investit aussi beaucoup le patrimoine mondial. Et comment tout ça, ça fait une communauté de gens qui se battent par rapport à une certaine histoire de la France, mais une histoire qui est tournée vers le futur, pas une histoire pour faire de la nostalgie, et ça, c'est ce qui nous rapproche.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée. en révolte oubliée. Les lignes endiablées, des guitares enflammées, manufacture de rock. The rock, the rock. Charbon, le point d'acier. À l'ombre des terris, des corons emboîtés, on puise l'inspiration de troquets en troquets. On vient de l'underground mini, crossroads industriel, aux façades sinistrées, frénésie collective des âmes traumatisées, manufacture de rock. The rock, the rock, the hammer.
À l'instant, un groupe du bassin minier d'Hénin-Beaumont qui s'appelle Rivelaine, c'était Latitude 50. Aujourd'hui, on parle des rencontres du bassin minier patrimoine mondial de l'UNESCO qui ont eu lieu en novembre dernier au 99 bis de Wany. Jean-François Caron, maire de Los Angeles, nous parle des futurs projets pour le bassin minier.
Je pense que le chantier prioritaire, c'est d'introduire la notion de qualité et d'excellence dans le territoire. C'est-à-dire que comme on a été un territoire fait pour produire du charbon, par rapport à beaucoup d'autres endroits en France, il n'y a pas vraiment eu d'attention portée à la qualité. Qualité des paysages, qualité de l'habitat. Il n'y a que depuis 20 ou 30 ans qu'on essaye vraiment de transformer cette image-là. Avant, le bassin minier, c'était des usines qui fumaient, des corons, les chevalements de mine, des gens... qui savent pas parler français, qui parlent pas toi, enfin une image très ancienne, très passéiste. Donc effectivement, réintroduire la qualité, c'est par exemple transformer nos grands sites de mémoire, la fosse 11-19 à Los Angeles, le 99 bis à Wany, la cité des électriciens à Brué. Par exemple, sur le site du 11-19, on est en train de lancer un grand restaurant pour pouvoir avoir une brasserie typique dans une ancienne fosse. C'est quelque chose que le territoire ne peut absolument pas offrir aujourd'hui. Alors que si on va en Allemagne, si on va en Belgique, en Hollande, c'est des restaurants qui cartonnent. Et c'est vachement tendance d'aller manger au-dessus des rails, sur les berlines, etc. Bon, donc c'est un exemple de qualité, c'est-à-dire qu'on prend des vieux bâtiments, on les rénove et on leur donne un usage. C'est toute la transformation des cités minières. Il y a 600 cités minières, c'est des logements qui sont de mauvaise qualité pour une bonne partie d'entre eux. Avant, on avait charbon gratuit, donc ce n'est pas des maisons qui ont été construites avec un souci de l'économie d'énergie. En plus, il y a eu les affaissements miniers. Donc, souvent, c'est des maisons qui ne sont pas très étanches. Bon, typiquement, remettre en état ces maisons-là, que les gens arrêtent de payer des sommes folles de chauffage et que les maisons soient de qualité, ça fait partie de l'amélioration de notre patrimoine, puisque les cités minières, elles sont classées au patrimoine mondial. Enfin, une bonne partie d'entre elles. On pourrait aussi donner un autre exemple. C'est les offices du tourisme, maintenant, sont en train de créer dans toutes nos agglomérations, des parcours piétons cyclistes où on ne croise jamais de voiture et qui deviennent très jolis. Ici, dans le bassin minier central, on fait ce qu'on appelle la chaîne des parcs et on réunit les grands étangs, les grands lacs, les terris. Et on peut faire, par exemple, une boucle de 30 km à vélo avec ses enfants et aller voir des sites magiques. Tout ça, c'est de la qualité dans le territoire. Avant, les terris, c'était des friches. Et personne n'y allait. Et moi, quand j'ai créé la chaîne des terris, c'était même tout le monde voulait raser les terris. Aujourd'hui, sur les terris de Los Angeles, il y a 150 000 visiteurs par an. Ça veut dire que c'est devenu extrêmement tendance. Et actuellement, on est en train d'y faire des travaux, on y installe des bancs, on les transforme pour qu'une famille puisse y aller avec des enfants. Là où avant, il y avait des fers à béton partout, il y avait des poutrelles en travers. Voilà, ce sont des exemples de la montée en qualité du bassin minier. Le but final étant, un, d'être fier de son passé, d'arrêter d'avoir honte d'être originaire du bassin minier, et deux, d'aider à un nouveau développement, soit directement du développement de tourisme, par exemple, soit comme on retrouve la fierté d'être dans le bassin minier, on va installer une entreprise dans le bassin minier plutôt que de le faire à Lille ou de le faire à Arras. Enfin, c'est ce que les experts appellent du marketing territorial. Quand un territoire a une bonne image, il se valorise bien et il devient attractif. Et l'inscription du bassin minier à l'UNESCO et l'arrivée du Louvre ont profondément changé l'image de notre territoire. Et donc, il faut qu'on montre que le territoire, aujourd'hui, devient agréable, sympa, et qu'on peut y vivre, et qu'on peut s'y développer, créer de l'activité, créer de l'emploi, etc.
Est-ce que vous pouvez déjà citer des exemples même que vous avez pu mettre en place dans votre ville de Los Angeles en matière d'environnement, ce qu'il y a à faire dans le bassin minier ?
Los Angeles, en fait, c'est un bon exemple de ce qu'on pourrait appeler une stratégie de reconquête. C'est que c'est à la fois toute la ville et le territoire qu'il faut transformer, remettre de l'emploi. Mais pour faire ça, c'est d'abord changer l'image. Et dans le changement d'image, la question de l'environnement est importante. C'est-à-dire que si le bassin minier, c'est que des fumées, que des lieux abandonnés, des friches où il y a du verre cassé, c'est pas attractif. Si au contraire, et c'est ce qu'on a fait à Los Angeles, on a fait 15 km de trame verte par exemple, on a replanté des fruitiers en accès libre, ce qui fait qu'à Los Angeles, il y a un sport qui s'est développé, c'est celui de faire des confitures, de se les partager, confitures de mûres, de pommes, de poires, parce qu'on a remis de groseilles, on en a remis partout. On a arrêté les pesticides depuis longtemps maintenant, ce qu'on appelle le zéro phytosanitaire, parce qu'on estime qu'on a déjà beaucoup, beaucoup de pathologies liées à l'environnement pollué du territoire. L'eau n'est pas de grande qualité, l'air non plus. Et donc, si on rajoute en mettant des pesticides partout, ça ne va pas. Donc, on a fait du zéro pesticide. On a vu le développement de l'agriculture biologique de manière massive. Et donc, du coup, c'est en même temps une alimentation sans produits chimiques. Et puis en même temps, c'est le retour d'une nature plus avec de la biodiversité, avec des insectes, une qualité de l'eau qui s'améliore. Donc on a fait pas mal de choses en démarrant par ce qu'on pourrait appeler classiquement l'environnement. Mais très vite, on a transformé la rénovation des maisons et la construction neuve pour faire ce qu'on appelle des maisons à basse consommation, voire à énergie positive. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui maintenant une partie importante de la population de Los qui paye plus que 150 euros maximum de chauffage par an. Là où, avec du chauffage électrique, sur de l'habitation classique, on est à 1500, 2000 largement. Bon. Donc la question de l'énergie, c'est pas exactement la question de l'environnement, mais ça a quand même, par exemple, un énorme impact sur le dérèglement du climat, puisque à Los Angeles, on a considérablement réduit l'émission de carbone et de CO2 dans l'atmosphère par les choix qu'on a faits. On a réhabilité tous les espaces en friche et on a organisé la découverte, des circuits, une bonne gestion des terris, notamment terris du 11-19, qui sont un site absolument un bijou, hein, à la fois du point de vue esthétique dans le paysage, mais quand on y est dessus, il y a énormément d'espèces intéressantes et tout. Donc, en fait, à Los Angeles, on a considéré qu'améliorer l'environnement, c'était améliorer la ville, améliorer la qualité de la vie, améliorer l'attractivité de notre ville. Alors, il n'y a pas eu que ça, mais je vais prendre un exemple. Un jour, un opticien est venu s'installer à Los Angeles, ce qui n'était jamais arrivé, puis il me dit, je pose la question, je dis, mais qu'est-ce qui vous a amené à choisir Los Angeles, vu qu'il n'y a jamais eu d'opticien ici? Et il me dit, j'ai fait la route du Louvre, je suis démarré de Los Angeles, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle est belle cette ville. Et puis, qu'est-ce que les gens sont gentils, tout le monde se dit bonjour, il y a un état d'esprit très chaleureux. Et puis, quand je disais à tout le monde, tiens, je vais m'installer, j'envisage de m'installer à Los Angeles, tout le monde dit, ah oui, tu vas t'installer à Los Angeles. Oh, c'est bien à Los Angeles. Il dit, moi, je préfère m'installer dans une ville dont les gens disent du bien que dans une ville dont les gens diraient du mal. En gros, si je veux réussir mon aventure, autant me mettre dans un endroit où il y a un état d'esprit favorable. Si je donne ça comme exemple, c'est pour dire que à Los Angeles, on n'a pas fait que de l'environnement, on a beaucoup travaillé les questions économiques et les questions sociales, mais que les questions d'environnement dans un paysage très malmené, comme celui du bassin minier, c'est la brique de base pour arriver à redonner de l'amour du territoire à des gens qui ne sont pas forcément d'ici, ou aussi à des gens qui voudraient s'en aller parce qu'ils estiment que c'est pourri chez nous, alors que finalement, tiens, ça change. Ah oui, le Louvre, c'est beau, on peut aller sur les terris, c'est génial. Je peux faire du vélo sur la trame verte, il y a plein de fleurs, il y a plein de papillons. Je peux manger de l'alimentation locale et bio parce que c'est en plein développement. Et tout ça, c'est des motifs à rester et à se développer dans le territoire.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Fast, 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 fast
Baïka à l'instant, artiste aussi régional hein, du bassin minier, qui est dans la puce à l'oreille hein, avec son titre Wild Traveler. Et on retrouve Jean-François Caron, maire de Los Angeles, porteur du projet du bassin minier à l'UNESCO, qui a été donc inscrit en 2012. Et nous lui posons la question sur certains bâtiments des houillères qui aujourd'hui sont toujours à l'abandon dans le bassin minier.
Alors ça, c'est un peu compliqué quand même, parce que ça va dépendre des bâtiments. Si je prends l'exemple dans ma commune, on a le grand site du 11-19 qui est maintenant devenu un joyau, énormément visité, je l'ai dit. Avant-hier, j'étais à Arras, je revenais en TGV, et sur une revue, je ne sais plus laquelle, en première page, c'est les terris du 11-19. Mais c'était une revue genre économique, quoi. Bon, le site du 11-19 est devenu un peu porte-drapeau de la ville de Los Angeles. Mais à Los Angeles, on a une autre fosse qui s'appelle la fosse 12, qui appartient à Maison et Cité, qui est classée monument historique, qui ne peut pas être détruite, mais sur lequel il n'y a aucun projet. Et intervenir là, c'est au bas mot, je ne sais pas, enfin, je vais dire des bêtises, mais peut-être 5 millions, enfin. Bon, ville, on ne peut absolument pas les mettre. En plus, ça ne nous appartient pas. Maison Cité dit, mais moi, je n'ai pas de projet. Pourquoi je vais aller mettre de l'argent sur une ruine? Et du coup, ben oui, là, on est face à un problème de gros sous. Auprès de qui on trouve des financements pour réhabiliter un bâtiment de ce type-là? Donc, des fois, ça peut être pas grand-chose en investissement et puis ça transforme un lieu. Par exemple, l'université de Lens s'est installée dans les grands bureaux des houillères. Mais du coup, hop, ça permet de réutiliser un lieu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc actuellement, on a 20 à 30 cas comme ça qui sont un peu compliqués, sur lesquels il faudrait qu'on arrive à réunir de l'argent pour les réhabiliter. Donc ça peut venir du niveau européen, ça peut venir de l'État, ça peut venir de la région. C'est aussi pour ça qu'on a fait une souscription, que les gens puissent mettre un peu d'argent, ceux qui ont envie de mettre 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 1 million, hein, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est jamais arrivé de mettre autant d'argent. Mais ce serait dommage que certains joyaux de notre histoire soient détruits, quoi. Et pour l'instant, on a encore quelques cas compliqués, oui.
Vous avez montré avec Los Angeles que c'est possible aussi de faire des choses à l'échelle d'une ville, donc peut-être aussi à l'échelle du bassin minier aussi de la région, de développer l'environnement, le développement durable, mais aussi ce côté positif, vous l'avez dit finalement, de l'image que les gens positifs, parce que malheureusement, ce qu'on entend quelquefois dans le bassin minier, qu'il y a des choses négatives. Oui. Donc comment faire pour que ça puisse s'étendre aussi?
L'avantage de Los Angeles, c'est que ça fait une vingtaine d'années qu'on fait ça. Donc, on a des résultats. Par exemple, on a fait la première église de France dont la toiture est intégralement solaire. Et c'est intéressant parce qu'une première nationale se fasse dans le bassin minier, qui plus est au nord de la France, le jour où on parle ensemble, le ciel est tout gris parce que c'est un jour de brouillard. Donc, on ne peut pas dire que c'est la région la plus favorable au solaire. Mais le fait qu'on arrive à le faire, ça veut dire à l'échelle de toute la France, mais donc d'autres villes du bassin minier ou du nord, bah finalement, c'est possible. Donc ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire que Los Angeles, comme d'autres villes qui font des choses intéressantes, apporte la preuve que c'est possible. C'est possible de fonctionner sans pesticides. Ça fait 15 ans qu'on le fait. C'est possible de mettre des fruitiers en accès libre et que les gens puissent faire des confitures, 20 pots de confitures, que ça leur coûte rien d'autre que le sucre et puis que le gaz qu'ils vont mettre. Bon, c'est possible. Donc ça, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut donner des idées et que ça peut être repris. Si je prends l'exemple du plan solaire, actuellement, on est en train de généraliser le solaire sur toutes les toitures de toutes nos salles de sport. Il y a 4 ou 5 maires du territoire qui m'ont dit « Jean-François, je laisse passer les élections ». Mais derrière les élections, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que je vais faire pareil que toi et je vais développer le solaire. Et donc, du coup, on va avoir un territoire qui va devenir leader sur l'énergie solaire. Ce qui est quand même assez extraordinaire vu notre situation géographique. Donc, le fait d'avoir une ville un peu pionnière qui développe des choses, qui expérimente, il y a des choses qu'on réussit, il y a des choses qu'on rate. Mais quand ça marche, eh bien, ça peut être dupliqué, ça peut être diffusé. Et je pense que si on demandait à mes collègues du bassin minier, est-ce que c'est plutôt une bonne chose d'avoir une ville citée en exemple, ou plutôt une mauvaise chose. Je pense que 100% des gens diraient si c'est mieux d'avoir une image du bassin minier qui passe dans les médias nationaux, ou c'est positif. Donc je pense que ça peut donner des idées, ça peut donner envie de faire, s'en inspirer, pas forcément de faire pareil, mais de s'en inspirer.
Finalement, beaucoup avaient peur qu'après le classement du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça puisse retomber un peu l'émulation. Alors, selon vous, c'est un peu retombé ou ça continue sur la lancée de l'inscription au bassin minier avant que le bassin minier soit inscrit à l'UNESCO ?
Alors, c'est sûr qu'en 2012, on a tellement eu les médias que ça a donné un coup de projecteur incroyable et ça, c'est retombé. On a moins la succession des journalistes, parce que ça fait maintenant 7 ans qu'on a été inscrit. Ça fait partie de l'ordre des choses maintenant. Par contre, on pourrait dire que le rayonnement du bassin minier, en plus il y a un élément non négligeable, c'est que j'ai été élu président national des sites UNESCO. C'est-à-dire qu'il y a 44 sites en France, il y a Versailles, Mont-Saint-Michel, Pont du Gard, enfin des sites comme ça. Et j'en ai été élu président national, ce qui veut dire que l'histoire minière reconnue au patrimoine mondial est devenue un peu le chef de file du patrimoine mondial en France. Je dirais que l'inscription, elle fait des petits, mais à distance. Et par exemple, en ce moment, on est en train d'installer beaucoup de signalétiques dans les cités minières. Ça a mis longtemps. Mais à l'entrée des villes, on commence à avoir des panneaux. Vous entrez dans une commune classée patrimoine mondial. En rentrant dans une cité minière, vous avez patrimoine mondial. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient même pas perçu qu'on était patrimoine mondial. Il y a des gens qui ne regardent pas la télé, qui n'écoutent pas la radio et qui ne lisent pas le journal. Ouais, ça existe. Et donc, la communication, ce n'est pas à vous qui êtes journaliste que je vais apprendre ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et finalement, il y a encore des gens aujourd'hui qui découvrent. Par exemple, il y a des gens qui croient qu'il n'y a que les terriers qui sont inscrits au patrimoine mondial, alors que non, il y a beaucoup de cités minières. Petit à petit, grâce à l'action de la mission bassin minier, grâce aux événements qu'on organise, aux fêtes qu'on fait, grâce à la signalétique, eh bien, l'idée qu'on est dans un site de renommée mondiale, ça monte chaque année un petit peu plus en puissance. Donc je dirais qu'il y a eu moins d'embrasement médiatique une fois passée la première année, parce que voilà, les journalistes sont passés à autre chose. Par contre, dans le territoire, c'est une diffusion lente mais continue.
C'était Jean-François Caron, maire de Los Angeles et porteur du bassin minier à l'UNESCO inscrit en 2012, qui s'exprimait sur les rencontres du bassin minier patrimoine mondial de l'UNESCO qui ont eu lieu en novembre dernier au 99 bis à Wani. Interview et réalisation de Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sensé.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
We are the world. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.